Race et histoire, race et culture.
Il dit, là, notre véritable danger, c'est de croire que nous sommes civilisés. C'est ça le problème. C'est ça ce qu'il dit dans Race et histoire. Attention, ne croyons pas trop vite que nous sommes civilisés. Le barbare, c'est justement celui qui se prend pour un civilisé.
Prénom.
Claude.
Non.
Lévi-Strauss.
Naissance.
Le 28 novembre 1908. Une anecdote apocryphe. Bien avant de savoir lire, il aurait depuis sa poussette repéré sur les devantures des commerces le même bou, B-O-U, dans boulangerie et boucherie par exemple. Il est donc des invariants dans la diversité des phénomènes. Ce qu'on nommera le structuralisme était déjà à l'œuvre.
Études.
Agrégé de philosophie, il ressent de l'ennui dans l'enseignement secondaire. Il deviendra ethnologue. C'est un métier parfait pour vivre à distance. Son terrain, avant-guerre, sera le Brésil.
La Deuxième Guerre.
Le statut des Juifs frappe Lévi-Strauss. Il songe un moment à vivre comme ces Indiens du Brésil, de cueillette dans les Cévennes où sont retirés ses parents. Mais il peut finalement passer à New York où il commence à utiliser les méthodes de la linguistique pour la préparation de ses systèmes élémentaires de la parenté.
Les grandes chaires à Paris.
Non pas l'université, mais d'abord, en 1949, l'école des hautes études, puis, à partir de 1960, le Collège de France.
Œuvre.
Triste Tropique en 1955 laisse une empreinte ineffaçable. Les mythologiques, en 4 volumes, sont qualifiés de monuments. Est-ce qu'on hésiterait à y entrer ? Nous nous consacrerons ici à 2 conférences qu'il donna à l'UNESCO, Race et Histoire, en 1952, puis en 1971, Race et Culture.
Mort.
La célébration de son centenaire en 2008 ne lui procura pas beaucoup de plaisir. Il disparaît en 2009, le 30 novembre.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Donc nous avons sélectionné 2 textes de Lévi-Strauss qui nous ont paru très présents. Parce que d'un côté, après beaucoup d'efforts, le mot « race » vient d'être rayé de la Constitution de 1958. Et de l'autre côté, il occupe de plus en plus l'espace public, les personnes racisées, nous pressant maintenant de l'utiliser. Mais dans quel sens? Parce que le mot « race », il est sujet à métamorphose. Claude Lévi-Strauss a été sollicité par 2 fois par l'UNESCO pour parler du sujet. Et à chaque fois, il a donné une réponse qui ne correspond pas nécessairement à la commande qui lui a été passée. De l'ethnologie, il a retenu qu'il faut se laisser aller à la surprise, que l'imprévisible est une qualité. Mais commençons par le début. Une esquisse d'histoire de l'ethnologie française. Claude Lévi-Strauss s'étonne quand il la met sous le parrainage de Gobineau. C'est un aristocrate talentueux, certes, mais nostalgique de l'Ancien Régime, et auteur, en 1853, d'un essai sur l'inégalité des races. Lévi-Strauss n'a cure de la définition des races telle que la postule Gobineau, mais il aime que le bonhomme s'installe à une certaine altitude. L'ethnologie n'a pas à rester vissée sur les certitudes communes de notre petit Occident progressiste.
Dans la mesure où l'histoire récente, l'histoire de quelques années, était interprétée comme un progrès, fallait qu'il change l'échelle, qu'il change l'ordre de grandeur. Ça a l'air d'un progrès, mais quand on regarde les choses de beaucoup plus loin, quand on les regarde à l'échelle des millénaires au lieu de les regarder à l'échelle des siècles, ce progrès apparaît comme une fluctuation statistique, disons, à l'intérieur d'un grand mouvement de décadence. Et c'est ainsi que Gobineau s'est trouvé amené à poser le problème de l'humanité à partir de ses plus lointaines origines, c'est-à-dire à partir des différences entre les races. Il a conçu ce grand schéma d'une humanité originellement très diversifiée, cette diversité apparaissant dans la structure anatomique, dans la couleur de la peau, dans la forme des cheveux, c'est-à-dire dans les différences raciales, mais auxquels ne s'attachaient pas des différences de supériorité ou d'infériorité. Au fond, dans la pensée de Gobineau, toutes les races sont égales, chacune a des aptitudes particulières et dont elle est le dépositaire privilégié. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est pour lui la fusion progressive de cette originalité raciale primitive et l'idée de pouvoir interrompre ce processus de métissage qui est en même temps un processus de décadence, c'est une idée complètement étrangère à Gobineau. Il y a là quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, qui est la loi même du monde, une sorte d'équivalent de ce que les physiciens appelleraient la loi d'entropie. Voilà, en très gros, je crois, l'essentiel de la pensée de Gobineau. Et il est un des tout premiers dans la pensée française à avoir essayé de penser l'évolution humaine à grande échelle au lieu de la penser à petite échelle.
Donc le mouvement de fond, c'est l'unification, voire l'uniformisation. Et la diversité peut être menacée, notamment, dit Claude Lévi-Strauss, constamment, il le dit, par l'Occident, dont les moyens techniques font penser qu'il pourra répondre à toutes les questions que se pose l'humanité. Lévi-Strauss n'a jamais adhéré à ce discours de la supériorité qui a perverti l'ethnologie dès qu'elle a été associée au colonialisme. En France, par exemple, à l'époque de Jules Ferry, écho d'un grand débat à la Chambre en 1885.
Il faut parler haut et vrai, il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Bon, vous osez dire cela dans le pays où ont été proclamés les droits de l'homme ? Bon, je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Je dis que les races supérieures ont des devoirs. Allons donc ! Mais ces devoirs, messieurs, ont été souvent méconnus dans l'histoire des siècles précédents, et certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'homme de race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation.
Bon, après Jules Ferry, maintenant Pascal Diby. Il a longtemps enseigné l'ethnologie et l'histoire de l'ethnologie.
C'est qu'on commençait, puisqu'on avait la puissance militaire, à se demander si ça valait pas le coup d'aller conquérir ces autres terres lointaines, avec les bateaux, les armes, les canons, tout ce qu'on veut, etc. Et pour ça, il fallait qu'on ait un prétexte. Et ce prétexte, ça a été l'idée que nous étions la civilisation, c'était déjà présent depuis longtemps, mais cette fois-ci, elle s'est imposée, cette vision du monde, comme une vision où nous étions non seulement la civilisation, mais nous étions supérieurs. Et puis il y avait quelque chose qui était là, latent aussi, depuis très longtemps, c'était la beauté contre la laideur. Et Buffon revient sur cette histoire, effectivement, de beau, de laid, et il commence à dire que la raison pour laquelle on est laid, c'est qu'on est inférieur. Et qu'est-ce qui est laid ? Et laid, ce qui n'est pas blanc, ce qui n'est pas de l'ordre de la clarté. Donc le sombre est laid. Et puis, les choses commencent à se mettre en place. Quand je dis les types commencent à délirer, je vois pas d'autre expression pour qualifier effectivement cette espèce de folie qui se met en place, où c'est vraiment une armada entière de chercheurs, d'explorateurs, de physiciens, de médecins, ben genre coloniaux. Il faut jamais oublier que l'anthropologie a été au départ fondée par des médecins majeurs coloniaux en grande partie. Et ce qui est rapporté, c'était l'observation des hommes. Et l'observation de ces hommes, eh bien, il a commencé à la lire, là aussi, à partir de l'idéologie de l'époque, c'est-à-dire avec l'idée qu'on allait faire un herbier vivant de ces humains, comme Linné avait fait pour les plantes, comme Buffon avait fait pour les animaux. On allait enfin le faire pour les hommes. Et on rentre dans une histoire complètement folle, où rien n'échappe, effectivement, au regard de cette raciologie qui essaye de décrire l'homme selon des critères très particuliers qui s'étaleraient sur une échelle raciale. Et on commence à jouer évidemment sur ce qui est le plus visible, c'est-à-dire l'absolue évidence. Il y a des gens qui sont noirs, il y a des gens qui sont jaunes, il y a des gens qui sont rouges, il y a des blancs. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le blanc, c'est déjà la catégorie au-dessus, c'est celle qui est propre, qui est au-dessus, qui est absolument indémontable et qui en plus est supérieure en matériel et en puissance pour le moment. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'introduit à l'intérieur de progrès absolument manifestes, notamment du côté de la médecine. Je pense notamment à Broca, ce grand chirurgien. C'était un anatomiste, il a fait des descriptions anatomiques absolument extraordinaires. Et en même temps, il a parfaitement déliré sur cet autre inatteignable et en même temps qu'il fallait absolument décrire. Il se trouve qu'à l'Université Paris 7, on a des archives, effectivement, qu'on appelle les archives Broca, qui ne sont pas encore utilisées, mais tout à fait extraordinaires, où on se rend compte que ces recherches sur la race, on a essayé de les faire à partir aussi de l'Europe. On a essayé d'essayer de comprendre ces fameux ethnotypes, comment ils se dégageaient. Alors, on a pris tout ce qui était visible. Lévi-Strauss le dit bien, les cheveux, la forme des yeux, la forme du nez, la forme du crâne, etc. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que Broca n'a pas arrêté de faire des dessins de vagins. Incroyablement détaillés, des Africaines, des Algériennes, de tout ce qu'on veut. Il était totalement obsédé par ça. Donc on voit que la chose est vraiment partie comme une espèce, une folie. J'appelle ça une folie, la folie raciale.
Ce n'est sans doute pas un hasard si le terrain sur lequel va travailler Claude Lévi-Strauss, le Brésil des Indiens, se situe loin de cet empire colonial français, dont il va retrouver cependant les pires aspects aux Antilles, où il se trouve un moment retenu, en 1941, quand il veut faire route vers les États-Unis. L'amiral Robert, proconsul de Pétain, a réveillé dans ce Vichy sous les tropiques tous les ressorts du racisme à la française. Claude Lévi-Strauss s'extraira avec soulagement de cette gangue coloniale quand il pourra enfin rejoindre New York.
Qui découvre l'anthropologie finalement en partant en Amérique. Donc c'est très important parce que ça lui permet de faire une coupure complète d'avec le monde colonial français. On voit bien ce qu'on appelle l'empire colonial. Et ce qui va se passer, c'est que Lévi-Strauss va prendre conscience que l'anthropologie, pour le moment, c'est-à-dire dans les années 40, mettons, au moment de la guerre, juste avant la guerre, est tellement enquisté dans une gangue colonialiste qu'il n'y a aucune façon, aucun moyen d'échapper à cette construction de l'image de l'autre qui est tellement énorme, tellement gigantesque, tellement imposée, pour des raisons idéologiques, bien entendu, qu'on ne sait pas comment en sortir. Et lui se dit, il faut reprendre effectivement l'histoire de la description de l'humain, il faut reprendre l'histoire de l'homme, il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit. Il se dit, dans le fond, ce qu'il faut, c'est rebaser cette anthropologie sur des bases scientifiques. Et il a l'intelligence de se tourner vers les mathématiques, ou plus simplement, parce que l'anthropologie, là, il retrouve les sources de l'anthropologie, qui très longtemps a été la linguistique. Mais cette voie linguistique, elle va être très vite interrompue, parce que justement, les tenants de l'idéologie coloniale, ils voient des choses très mauvaises, c'est qu'on risquerait de s'intéresser à l'autre. Et effectivement, c'est l'arrière-fond grammatical qui fait l'existence de notre rapport au monde. Donc on le sait, on sait comment ça fonctionne, on commence à se rendre compte que c'est différent. Il faut se rendre compte qu'il arrive à New York, qu'il arrive dans un espace qui, pour un Européen et pour un Français, est une base entièrement neuve, où on peut penser autrement les choses. Et sur qui ils tombent sur des linguistes qui ont des approches qui sont plus du tout inscrites dans notre système ancien, où on est obsédé par l'ancien, le vieux. J'en reviens là-dessus, parce que ça va être à l'origine justement du racisme, c'est-à-dire l'idée de constamment de pouvoir prouver qu'on est de race alpine, qu'on est de race je ne sais quoi, etc.
Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est aux États-Unis qu'il a pu se libérer du racisme colonial ? En France, on aurait tendance à dire que le racisme est consubstantiel de l'histoire américaine.
Oui,
ben alors là, c'est le lieu de la libération pour les.
Oui, bah oui, c'est le coup de l'étranger, c'est-à-dire qu'on peut se dépuceler culturellement et entrer dans des visions nouvelles du monde parce que on est à côté de l'ambiance, on est à côté de la chose.
Et c'est fondamental chez Lévi-Strauss, se décentrer, se décaler.
Ah, je pense.
Changement d'époque après la guerre. Il revient en Europe en 1948 et les représentations ont changé de cours. Juste un exemple. On prend un naturaliste comme Julian Huxley, le frère d'Aldous, l'auteur du Meilleur des Mondes. En 1924, Julian Huxley avait déclaré « L'esprit du nègre est aussi différent de l'esprit du blanc que le corps du nègre est différent de celui du blanc ». Eh bien, après la catastrophe du fascisme et du nazisme, sa pensée s'est retournée au point qu'il va être élu à la tête de l'UNESCO, dont on verra le rôle qu'il a dans le parcours de Lévi-Strauss. À Paris, c'est pas l'université qui a fêté Lévi-Strauss. C'est un enfant prodigue, pas toujours aimé. Mais l'école des hautes études l'élit à une direction d'études qu'il va nommer anthropologie sociale. Anthropologie paradoxale, on peut lui faire confiance. Lévi-Strauss observe qu'on saisit généralement de lui, il est décalé, qu'un mot sur deux. Pourtant, il parle de façon limpide. L'époque d'après-guerre a envie d'entendre de lui un message d'unité du genre humain.
Il m'est arrivé, il y a quelques années, de passer de longs mois dans des coins perdus de l'Amérique du Sud, au milieu de populations qu'on peut considérer comme étant parmi les plus primitives qu'on rencontre à l'heure actuelle à la surface du globe, qui vivent complètement nus en errant dans la savane à la recherche de tout ce qui peut les empêcher de mourir de faim. Eh bien, à chaque instant, j'ai eu le sentiment non seulement que je me trouvais parmi des hommes et des femmes, mais parmi des hommes et des femmes qui étaient en tout point semblables à ceux que j'avais laissés à Paris.
L'unité du genre humain, c'est donc le climat dominant autour de 1950, en dépit de la guerre froide. Ah, si tous les gars du monde, on se souvient peut-être du film avec la chanson, des compagnons de la chanson. Une exception cependant, l'Afrique du Sud, où commence le régime d'apartheid. En 1952, ça va être la date de la conférence à l'UNESCO de Claude Lévi-Strauss, commence à poindre le nom de Myriam Makeba, qui va devenir célèbre peu après.
Inter. Intelligence, service.
Au lendemain de la guerre, naissent des organisations internationales destinées à consolider la paix et la solidarité. Comment l'une d'elles, l'UNESCO, va-t-elle faire appel à Claude Lévi-Strauss ?
Alors l'UNESCO, c'est l'organisation qui s'occupe de l'éducation et de la culture. Elle publie une déclaration sur la race, à la suite de laquelle un de ses animateurs, Alfred Métraux, encore un grand ethnologue français, demande à Lévi-Strauss cette fameuse conférence fondatrice « Race et histoire » qui est donnée en 1952. La race n'y est pas présentée comme une loi de la nature, mais comme un produit, une fonction de chaque culture qui cherche à étalonner la diversité, chacune avec ses critères. Le texte va devenir un vade-mecum de l'anticolonialisme. C'est qu'il est aussi ordonné par la critique constante, on le sait, chez Lévi-Strauss, du progressisme occidental. Le discours de la diversité que tient l'Occident, c'est en fait celui de sa supériorité. Certains d'ailleurs, à l'UNESCO, comme le grand écrivain Roger Caillois, s'en trouvent froissés. Notre témoin dorénavant, c'est Patrice Maniglier. Il donne chaque année à ses étudiants de Nanterre un cours sur l'une et l'autre des conférences de Lévi-Strauss sur la race.
Donc Caillois a très bien compris que Lévi-Strauss est un critique du progrès. C'est ce qu'il lui reproche, justement. Il lui dit, en gros, vous êtes un enfant prodigue, vous faites partie de ces enfants de la civilisation occidentale qui voulaient relativiser, ce qui est tout à fait vrai, les bienfaits de cette civilisation occidentale et notamment le progrès scientifique. Ce que Caillois ne supporte pas, dans le relativisme radical, quand même, qui est celui de Lévi-Strauss. C'est un relativisme radical. Il ne supporte pas l'idée qu'on relativise l'idée même de progrès scientifique. Mais en même temps, on sait bien que pour Lévi-Strauss, il y a cette thèse dans laquelle tous les êtres humains partagent les mêmes structures mentales. Et que d'ailleurs, le but de l'anthropologie, le but qu'il s'assigne lui-même, auquel il consacre toute sa vie, c'est de dégager, comme il dit, les traits universels de l'esprit humain. Donc comment est-ce qu'on peut être à la fois un relativiste radical et un universaliste théorique ? Ben, c'est très simple, il suffit de dire que ce que tous les êtres humains partagent, c'est leur capacité à différer les uns des autres. C'est leur manière de différer. Et la valeur absolument irréductible, je crois, pour Lévi-Strauss, c'est la notion de différence. C'est un penseur de la différence contre l'identité.
Donc, ce qu'il montre, ce n'est pas l'unité du genre humain. Ce qu'il cherche, c'est la formule de la diversité.
Parce que c'est la même chose. Ce que les êtres humains ont en commun, c'est leur capacité à différer les uns des autres, à construire des différences, à maximiser ces différences. Et ce qui caractérise une culture, ça n'est pas qu'elle, une culture n'est jamais donnée en vérité. Une culture est un ensemble de mécanismes par lesquels on se contraste, on se différencie, on s'éloigne les uns des autres. Pour Lévi-Strauss, si on n'a pas de différence, eh ben, il n'y a pas de sens. C'est la différence qui fait le sens. Nous avons de bonnes raisons de penser que chaque fois que des gens pensent avoir découvert les nécessités fondamentales de tous les êtres humains, ils ont simplement projeté les leurs, en fait, sur tous les êtres humains. Si vous dites, par exemple, tous les êtres humains veulent avoir un toit, disons, se protéger, avoir un abri, ben vous dites quelque chose qui est très équivoque, parce qu'il y a tellement de manières de construire des abris. Si vous dites tous les êtres humains sont soucieux de leur mort, vous dites pas grand-chose, en fait. On va comprendre ce que ça veut dire être soucieux de ses morts si on prend en compte la diversité des manières de le faire, précisément. De même, si on dit tous les êtres humains ont des systèmes de parenté, oui, mais c'est la diversité des systèmes de parenté, alors la manière dont nous pouvons montrer justement comment cette diversité est organisée, comment les uns sont des variantes les uns des autres, qui va nous permettre de comprendre ce qu'est la parenté. Donc on peut pas du tout, pour Lévi-Strauss, séparer la vérité sur nous-mêmes de la diversité des manières dont nous pouvons précisément être nous-mêmes.
Monsieur Lebrun, avec Triste Tropique en 1955 et son enseignement au Collège de France, Claude Lévi-Strauss devient une autorité. Cela empêche, peut-être, de percevoir sa profonde évolution depuis les années 50.
Une autorité, une puissance, un monument. Quelques disciples. On pense à Françoise Héritier qui va lui succéder plus tard dans sa chaire et à la tête de son grand laboratoire. Le considère comme un demi-dieu. Il travaille d'arrache-pied à l'analyse de quelques 800 mythes. Comment les ordonner ? Il recherche les invariants. Mais le monument avance. Patrice Maniglier.
Non, alors c'est vrai qu'il y a un tournant dans l'œuvre de Lévi-Strauss sur la question nature-culture, qui est que il est du côté d'une différence, d'une séparation très nette de la nature et de la culture dans les structures élémentaires de la parenté, qui en sont publiées en 49, et aussi d'une certaine manière dans Race et Histoire. On voit bien que ce qui l'inquiète en fait fondamentalement, c'est ce problème de la diversité et de la hiérarchie des cultures. Il s'intéresse pas tellement, en fait, au problème de leur relation avec des traits qu'on appellerait naturels, c'est-à-dire biologiques, écologiques. C'est pas très présent. C'est présent. C'est pas absent totalement, mais c'est pas, on voit bien que c'est pas son centre. Parce que, au fond, il est, on pourrait dire, dans une certaine forme d'humanisme, si on définit l'humanisme comme une pensée de l'exceptionnalité du fait humain dans le monde, quoi, en quelque sorte. Il est un peu humaniste encore à cette époque-là. Et c'est vrai qu'il y a un tournant dans les années, probablement dans les années 50, qui est très très sensible en fait dans Triste Tropique, où on commence à sentir que sa grande inquiétude, mais elle était toujours déjà présente au fond, sa grande inquiétude, c'est les ravages que la civilisation industrielle fait au monde dans lequel on vit. Il va insister beaucoup plus sur la nécessité de combattre l'idée même d'exception humaine.
Humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même.
Exactement. Humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même. Et il faut aussi dire que quand il a travaillé sur les mythes, il s'est rendu compte à quel point on ne pouvait comprendre les mythes si on ne les resituait pas dans les relations d'observation très concrètes que les gens ont du monde qui les environne. Ça, c'est très frappant dans la pensée sauvage. Dans la pensée sauvage, il ne cesse de dire, la pensée humaine, elle est fabriquée avec des observations, avec les observations de la manière dont certains oiseaux nidifient, avec les observations des différents comportements animaux, les observations des cartes célestes, etc. C'est ça, c'est donc ce qu'il appelle une logique des qualités sensibles. C'est-à-dire, c'est vraiment l'expérience vécue qui va, disons, permettre de donner du sens à l'expérience vécue elle-même. C'est-à-dire, c'est la manière, par exemple, dont on organise la diversité des espèces qui va permettre de donner du sens à la manière dont on organise la diversité des groupes humains, et inversement.
Il lui arrivera de dire « Combien je regrette de n'avoir pu communiquer pleinement avec un animal ». Alors, on comprend que l'attire de plus en plus les cultures qui sont allées dans d'autres sens que la nôtre, choisissant d'être beaucoup plus poreuses à la nature.
Permettez-moi de faire ici quelques distinctions. En premier lieu, si supériorité il y a, elle n'est pas le fait d'une race. Ce que nous appelons race blanche, pour des raisons de commodité, n'est pas une race au sens scientifique du terme, mais un conglomérat d'éléments raciaux fort différents les uns des autres. Posons donc la question non de la supériorité d'une prétendue race blanche, mais de ce type de civilisation qui s'est développée en Europe occidentale d'abord, puis des deux côtés de l'océan Atlantique et maintenant un peu partout. Cette supériorité est incontestable si nous la définissons avec précision, car elle ne paraît évidente ni sur le plan des institutions politiques, ni sur celui des croyances morales et religieuses, ni sur celui de l'art. Elle est par contre certaine quand on retient comme critère la connaissance scientifique et l'empire sur la nature. C'est là le caractère distinctif de la civilisation occidentale. Pour lui mériter le nom de supériorité, encore faudrait-il que d'autres civilisations se soient formellement proposées le même but et aient échoué à l'atteindre. Il me semble plutôt que certaines civilisations, au moins, aient conçu le problème. Seulement, elles ont décidé de faire un autre choix, non point comme nous en faveur de la puissance et de la démesure qu'elle implique avec ses conséquences pour partie enivrantes et pour partie catastrophiques, mais en faveur d'une certaine médiocrité matérielle tenue consciemment pour gage d'un meilleur équilibre entre l'homme et l'univers.
Est-ce le même Claude Lévi-Strauss que l'UNESCO va retrouver en 1971 pour une nouvelle conférence « Race et culture après race et histoire » ? Conférence qui va surprendre, voire gêner. Monsieur Lebrun ?
Oui, l'UNESCO a cru pouvoir rééditer sans doute le succès de 1952 en cette année 1971 qu'elle a proclamée « Année internationale contre le racisme ». En effet, Claude Lévi-Strauss, il a changé, on vient de le voir, mais l'époque aussi a changé. La génétique est entrée en force sur la scène de l'anthropologie. Elle a montré que la recherche de marqueurs qui caractériseraient les races, marqueurs biologiques, eh bien, elle est vaine. Vous vous souvenez du professeur Jacquard, très présent dans ces années 70 et encore plus tard sur les ondes?
Nous allons nous tourner vers le studio. Avez-vous des questions qui ont été posées par les auditeurs?
Oui, Pierre Cipriot, Sylvie Andreu va vous en lire deux. Et puis Nicolas Roski, qui est avec nous, a beaucoup de questions aussi à poser.
Très bien, alors nous vous laissons la parole.
Bon, question au professeur Jacquard. Peut-on identifier le patrimoine génétique avec le concept de race? À quoi correspond donc le concept de race? Est-il déterminé par un patrimoine génétique commun?
Vous plaît, le problème des races, effectivement, il ne faut pas l'éluder. Qu'est-ce que c'est qu'une race? Le généticien que je suis vous répond, je ne sais pas. Je n'en ai jamais vu et je ne suis pas sûr que ça existe. Vous prenez un groupe humain quelconque, l'ensemble des gens qui traversent la gare Saint-Lazare ce soir à 6 heures. Et vous les mélangez et vous dites, voilà une race, elle aura sa spécificité. C'est ridicule en soi. Vous prenez n'importe quel groupe, vous dites, il est différent d'un autre. Par conséquent, puisqu'il y a une différence, il va y avoir deux races. Mais qu'est-ce que cela... À quoi cela sert au point de vue de la compréhension de la réalité? Non, je pense qu'il n'y a pas de race, il y a une continuité. On peut toujours mesurer une différence entre les patrimoines génétiques. C'est vrai, le patrimoine génétique des gens qui habitent dans le Jura n'est pas le même que le patrimoine génétique des gens qui habitent, disons, le Mali. Mais cette différence n'a aucun sens de hiérarchie. On peut créer des groupes, on peut caractériser des différences, mais il faut avant tout se dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Or, nous avons tous dans l'esprit, quand nous parlons de race, il y a la bonne, c'est-à-dire la mienne, et puis il y a les autres, moins bonnes. Et ça, c'est absolument ridicule. Et nous l'avons. Nous avons étudié, puisque vous me parliez de cas particuliers...
Non, y a-t-il pas des réactions qui sont simplement, enfin, des espèces de réactions au niveau de l'odeur, enfin, le fait que les races ne supportent pas très bien le contact.
Oui, il paraît que les jaunes trouvent que les blancs sentent mauvais.
C'est
les
ce
blancs...
qu'on me disait, c'est ce qu'on m'enseignait autrefois.
C'est ça, les blancs trouvent que les noirs sentent
sur
mauvais.
Les races humaines.
Oui, mais ça, c'est un caractère très particulier, l'odeur que nous pouvons avoir. Il y en a bien d'autres.
Non, mais je cherche une explication.
Hein. Non, mais c'est purement subjectif, et je crois qu'il faut dire que scientifiquement, la notion de race n'est pas fondée.
Pierre Cipriot, à France Culture, cherche une explication. Alors, dans Race et Culture, c'est le titre de la conférence à laquelle on vient, 1971. Claude Lévi-Strauss reprend longuement cette question de l'importance relative du patrimoine génétique et du mode de vie. Et c'est le mode de vie qui l'emporte. Il prend un exemple. Les différences entre bébés africains et bébés américains, nord-américains, sont autrement importantes que celles aux États-Unis entre bébés noirs et bébés blancs. Et pourtant, au moment où il parle, à ce moment de 1971, aux États-Unis, les préjugés raciaux sont toujours au plus haut puisque se déclenche le mouvement des droits civiques. Voici un autre moment important de la conférence de 1971.
Rien n'indique que les préjugés raciaux diminuent et les indications ne manquent pas pour suggérer qu'après de brèves accalmies locales, ils ressurgissent ailleurs avec une intensité accrue. D'où le besoin ressenti par l'UNESCO de reprendre périodiquement un combat dont l'issue apparaît pour le moins incertaine. Les différences raciales ne continueraient-elles pas à servir de prétexte à la difficulté croissante de vivre ensemble, inconsciemment ressentie par une humanité en proie à l'explosion démographique? Et qui se mettrait à se haïr elle-même parce qu'une préscience secrète l'avertit qu'elle devient trop nombreuse pour que chacun de ses membres puisse librement jouir de ses biens essentiels que sont l'espace libre, l'eau pure, l'air non pollué. Les préjugés raciaux ont atteint leur plus grande intensité vis-à-vis de groupes humains réduits par d'autres à un territoire trop étriqué, à une portion trop congrue des biens naturels pour que leur dignité n'en soit pas atteinte à leurs propres yeux comme à ceux de leurs puissants voisins. Mais l'humanité moderne dans son ensemble ne tend-elle pas à s'exproprier elle-même? Et sur une planète devenue trop petite, ne reconstitue-t-elle pas à ses dépens une situation comparable à celle que certains de ses représentants infligèrent aux malheureuses tribus américaines ou océaniennes?
Oui, si Lévi-Strauss a changé, c'est qu'il donne de plus en plus d'importance à l'explosion démographique. Vous avez entendu le mot pour lui, c'est le problème numéro un, il en est même arrivé à penser que l'humanité a eu le tort de s'arroger le droit de se reproduire sans assez de restrictions. Patrice Maniglier.
C'est un sujet sur lequel Lévi-Strauss a toujours été à la fois très clair et très critiqué, à savoir sa phobie démographique et sa conviction qu'un monde où les êtres humains sont si nombreux est un monde invivable. Mais c'est vrai que Lévi-Strauss fait partie de cette génération probablement qui a pris de plein fouet cette explosion démographique. Depuis les années 70, la déforestation n'a jamais été aussi intense. La pollution des océans n'a jamais été aussi grande, l'augmentation de la température globale n'a jamais été aussi rapide, et puis on sait qu'on va vers 9, 14 milliards d'êtres humains. Donc nous sommes, nous aussi, d'une certaine manière, les témoins de cette extraordinaire accélération du processus. Donc de ce point de vue-là, bon, oui, Lévi-Strauss est un témoin, éveillé. Mais la fameuse bombe P, la bombe de la population, comme certains disent, On est en plein dedans, hein, et elle continue à...
Alors ça, c'était une théorie d'un Américain qui s'appelait Paul Ehrlich dans les années 70.
Donc, qui est très critiqué, hein, aussi, il faut bien le dire. Mais donc, pour Lévi-Strauss, encore une fois, sa passion, c'est la différence. Donc, ce qui l'inquiète, en fait, dans l'explosion démographique, c'est le fait qu'il n'y a plus d'espace pour ces différences.
Plus l'espace vient à manquer, plus le risque est grand qu'une unique culture industrialisée ne l'occupe. C'est pour cette raison qu'il aimait le Japon, qui, à l'entendre, parvenait à s'isoler suffisamment sans s'isoler trop. Nous nous sommes demandé avec malice ce qu'il aurait pensé de cette musique électro-orientale, acide arabe, avec Sofiane Saïdi, une musique qui rend mitoyen des espaces naguère séparés. Cette musique rendrait-elle optimiste Lévi-Strauss? En tout cas, dans sa conférence de 71, il ne s'astreint plus à le paraître. On disait à l'époque, il ne faut pas désespérer Billancourt, l'ouvrier de Renault portant les espoirs de justice sociale. Lévi-Strauss a pris, lui, le risque de désespérer son public, celui de l'UNESCO. Et d'ailleurs, dans la salle, certains sont tout de suite consternés.
Autre question?
C'est ça?
Oui, monsieur. S'il vous plaît.
Monsieur le professeur, je suis un peu frappé par la conclusion à laquelle vous êtes arrivé ce soir. Je me demande si quelqu'un qui ne vous connaît pas bien et qui écoute cette conférence ce soir ne pourrait pas sortir avec un sentiment d'amertume. Qu'au fond... il n'y a pas d'issue à la lutte contre le racisme. Vraiment, je vous dis, je suis très troublé par votre conférence et j'essaye d'oublier votre philosophie et me concentrer sur ce que vous nous avez dit ce soir. Je sors un peu avec beaucoup de pessimisme sur la fin que vous nous avez donnée sur l'interprétation de la lutte contre le racisme. Bien que je sache que vous soyez raciste vous-même. Je vous remercie.
Monsieur Lévi-Strauss. Non.
Qu'il faille lutter contre le racisme, je n'en doute pas une seconde, et nous sommes ici réunis ce soir, tous dans ce but. Ce que j'ai voulu dire et suggérer, ça n'est certainement pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est que ça ne suffit pas. Et que... l'insuffisance relative ou notre impuissance à obtenir des résultats tient peut-être à ce que nous posons le problème dans des termes trop étroits en ne considérant que l'homme par rapport à l'homme et qu'une façon plus féconde de parvenir aux résultats que nous souhaitons tous, c'est de l'élargir et de considérer que ce n'est pas seulement l'homme qui est en cause, mais que c'est la relation de l'homme à toutes les formes de la vie. Et si nous avions vis-à-vis de la vie, si nous avions vis-à-vis de la nature, une position plus sage, plus mesurée, plus humaine, probablement du même coup, nous l'aurions aussi vis-à-vis de l'humanité. C'est donc un élargissement de la lutte, et non pas du tout à son abandon que j'ai voulu inviter.
Avant la réponse de Lévi-Strauss, vous avez entendu le lapsus de son interlocuteur africain qui ne sait plus comment qualifier le professeur et qui en vient à dire « bien que je sache que vous soyez raciste » au lieu de « antiraciste ». Patrice Maniglier lui-même, à la première lecture, plus tard, de la conférence « Race et culture », a éprouvé aussi du trouble avant de comprendre cet objectif de l'élargissement qui était celui de Lévi-Strauss. Il faut poser la question de la relation de l'homme avec toutes les formes de la vie et de la nature. C'est un conservateur, dit Maniglier, au plus grand sens du mot. C'est d'ailleurs que la liberté ne peut naître que de longues habitudes. Mais ce dédain de l'antiracisme automatique...
Lévi-Strauss fait une critique de l'antiracisme et de la bêtise, disons, d'une certaine forme d'antiracisme. Mais Lévi-Strauss est toujours critique de la bêtise de gauche. C'est son boulot d'être critique de la bêtise de gauche. C'est son boulot d'être critique de la bêtise en général. C'est sa tâche. Et donc, évidemment, on va trouver chez Lévi-Strauss des outils pour critiquer l'antiracisme, pour critiquer une certaine niaiserie, disons, intellectuelle de gauche. Bon, de toute manière, ça l'agace. Le moralisme l'agace. Là, Lévi-Strauss a soigneusement organisé, d'une certaine manière, le malentendu pour une raison qui est très simple. C'est que lui-même voulait toujours penser plus loin. Et ce qui me semble assez légitime pour quelqu'un qui fait un travail intellectuel et qui est payé pour ça, au moins qu'il pense plus que les autres, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et bon, je pense que Lévi-Strauss est dans la situation de toutes les grandes pensées. On lit toujours les auteurs à l'envers. Hein. C'est, je trouve, un très très frappant. Donc Lévi-Strauss fait partie de ces gens-là, et c'est exprès, encore une fois. Il le fait tout à fait exprès. Donc les malentendus, là, c'est assez intéressant pour un certain nombre de malentendus, parce que je vous dis, moi, ce qui me frappe, c'est que le texte Race et Culture, aujourd'hui, est devenu une sorte de vade-mecum, enfin de ressources, de justification pour une partie de ce qu'on a appelé la Nouvelle Droite, qui a récupéré le texte de Lévi-Strauss pour défendre une idée d'identitarisme. Ce qui est paradoxal, encore une fois, parce que Lévi-Strauss, c'est vraiment le différentialiste. Hein. Et là, on voit bien que c'est une lecture intéressée. Hein. C'est une lecture intéressée. Et bon, peut-être que ces gens sont suffisamment intelligents pour se rendre compte que, de toute manière, ils ne peuvent maintenir leur lecture identitariste, c'est-à-dire l'idée selon laquelle Lévi-Strauss justifierait le fait de défendre son identité, éventuellement violemment, en tout cas contre les autres, ils vont peut-être se rendre compte qu'ils, de manière, ils sont obligés d'associer à cette thèse la thèse écologique. J'espère qu'ils ne sont pas assez intelligents pour le faire, parce qu'à ce moment-là, c'est un cocktail très dangereux.
Cocktail dangereux, bah oui, produire local, ça peut coïncider avec vivre seulement en compagnie des siens. Ou quand on vous questionne sur la culture de Gond, et que vous dites, bah oui, elle mérite d'être préservée. On peut ajouter, mais alors dans ce cas, la culture française aussi. Ce ne serait plus du racisme, mais de l'ethno-pluralisme. Alors la position de Claude Lévi-Strauss, c'est nullement celle-ci. Mais dans la salle de l'UNESCO, en 71, il y avait aussi un participant qui annonce les positions de la gauche radicale universitaire d'aujourd'hui.
Est-ce que la position de l'ethnologue dans notre société, qui est encore colonialiste, n'en fait pas un bon exemple, un bon représentant de raciste, plutôt qu'un porte-parole qualifié? Il est quand même assez aberrant qu'on puisse encore prétendre au XXe siècle choisir comme objet d'étude des sociétés autres que la sienne.
Enfin, je vois pas, j'avoue que je ne vois pas très bien en quoi c'est aberrant. Enfin, à moins qu'on ne décide que l'homme n'est pas un objet d'étude pour l'homme, il me semble certain que c'est une investigation qui est, disons, plus facile ou plus vraisemblablement moins difficile lorsque l'écart donné au départ se trouve considérable entre l'observateur et l'objet même de son observation. Ce qui n'implique pas du tout qu'une réciprocité ne puisse pas se produire, et je trouverais tout aussi normal qu'un indigène du fond de la Mélanésie, s'il avait le goût de l'ethnographie, étudie la société occidentale, que le contraire.
Ah, un Mélanésien peut-il observer un occidental? Un juif comme Schwarzbart Naguère peut-il écrire sur la mulâtresse solitude? Une blanche traduire une poétesse noire? Alors, on sait que ces questions sont devenues obsédantes 50 ans après la conférence de 1971. Obsédantes dans les milieux universitaires, parce que la gauche radicale universitaire ne pose pas les mêmes questions que la gauche politique, celle qui avait voulu enlever le mot race de la Constitution de 1958. Mais dans les milieux universitaires, quand on parle de racialisation, de personnes racisées, le mot race, est-ce qu'il ne s'est pas métamorphosé ? Il relève peut-être de la sociologie, plus que de l'ethnologie, et une sociologie souvent binaire, dominant, dominé. En tout cas, la généralisation de son usage, ça ne facilite pas les discussions, parce que on débat plus difficilement des identités que des simples opinions. Ce nouveau monde de représentation, Lévi-Strauss ne l'a pas connu, et d'ailleurs il ne se serait peut-être pas senti la force de le connaître. Vers 2006, soit au moment de ses 98 ans, il a dit qu'il n'était plus de ce monde. Alors ce n'était pas par désintérêt, c'était pure sagesse de sa part. Un homme de plus en plus bouddhiste que Lévi-Strauss, qui évaluait la vacuité de nos efforts. Patrice Maniglier.
Et je crois que l'anthropologie, c'est pour lui, c'est ça qui compte, parce que l'anthropologie, du fait de faire l'expérience d'une diversité de manière d'adhérer au monde, d'adhérer aux choses, d'adhérer à nos valeurs, ça nous permet de nous détacher d'elle et de nous rapporter à elle comme un système de valeurs parmi d'autres. Et donc de pouvoir mieux se tenir dans cette relation de constat. C'est comme ça. C'est comme ça. Il le dit souvent, il y a pas de bien. C'est pas comme chez Platon où il y a un bien derrière l'être. Ouais. Pour Lévi-Strauss, il y a rien derrière le fait que les choses soient. Il y a une contingence radicale des choses. C'est comme ça. Et donc je crois que sa passion d'ethnographe est vraiment animée par une quête spirituelle.
Donc si l'anthropologie n'est pas une philosophie, c'est parce que c'est une sagesse.
Exactement. C'est une magnifique manière de résumer l'affaire. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on retrouve d'ailleurs dans Race et Culture, comme dans Race et Histoire, l'idée sans laquelle la dimension purement théorique des problèmes n'est pas l'essentiel. Donc c'est pas simple, il suffit pas d'y penser. Il faut trouver une manière de les vivre, ces questions. Et d'organiser la vie de telle sorte que, par exemple, les violences sur les traits culturels ne se produisent pas. C'est une sagesse, oui.
Race et Histoire, Race et Culture sont publiés en un même volume chez Albin Michel. Patrice Maniglier a donné un vocabulaire de Lévi-Strauss chez Ellipse et Pascal Diby, toutes sortes d'exercices d'ethnologie inattendus, par exemple sur le bureau, la chambre à coucher. La prise de son, Nicolas Mathias. À la maison de la radio et de la musique, Philippe Thibault. Les agents d'Intelligence Service, Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille, puis Étienne Bertin. Et la semaine prochaine, eh bien, nous retrouverons un Intelligence Service consacré à une disciple de Lévi-Strauss qui lui a succédé au Collège de France, Françoise Héritier.